Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle.
Et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui. D'actuel.
Et lui.
Bonjour et bienvenue sur 48FM pour ce 7e numéro d'Actuel et lui. Bonjour les filles, bonjour.
Salut,
bonjour Guillaume.
Tu vas bien ?
Ça va, très bien. Alors aujourd'hui au programme, on commence avec Aurélie.
Oui, aujourd'hui je vais vous parler des box.
Ah. Plein de choses à manger dans la box.
Ah, vous verrez.
Bon. Pas qu'à manger, à étaler, à tout ça.
Exactement.
On verra. Et toi, Guillaume, tu vas nous parler de quoi ?
Je vais vous parler des jours fériés.
Ah, ça tombe bien en ce moment.
Eh ben oui,
il y en a pas mal.
Cette saison, c'était l'occasion d'en parler un petit peu.
Et toi, Anne-Marie, de quoi tu vas nous parler ?
Je vous ai fait une petite revue de presse en ce mois de mai.
D'accord. Les féminins, les masculins ?
Les deux. Tant qu'à faire, soyons fous.
Bien, alors Aurélie, on commence avec toi. On va parler donc des box. Qu'est-ce que c'est finalement ?
Eh bien, je vous renvoie à la question, justement. Est-ce que vous savez ce que sont que les box ? Parce que moi, quand on m'a parlé des box pour la première fois, j'ai souri d'un air entendu en passant en revue les box cadeaux. Non, ça ne doit pas être ça. La box internet, c'est autre chose. La box taille, non, ça, je ne pense pas. Bon, bref, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. Eh bien non, messieurs, dames, les box à offrir, c'est encore autre chose.
Et c'est quoi exactement ?
Eh bien, ces box nouvelle génération, ce sont des coffrets à thème qui regroupent 5 à 10 produits en petits conditionnements, envoyés tous les mois à des abonnés, moyennant 15 à 25 euros en général. En moins de 2 ans, on recense déjà plus de 170 produits de ce type. Et si l'essentiel de l'offre se concentre sur la beauté et la gastronomie, on trouve également des box consacrées aux chiens, aux chats, aux bonbons et même aux chaussettes ou aux bonsaï.
Et donc, c'est juste une boîte avec des produits dedans ?
Bah non, c'est quand même plus que ça. C'est le cadeau du moment, le petit plaisir mensuel, la surprise qu'on attend un peu nerveusement. J'ai bien l'impression que c'est même le truc du moment. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc personnellement, je trouve le concept assez sympa. L'axe marketing du cadeau, de la surprise est plutôt bien trouvé. En général, on a une belle présentation, un emballage soigné, des produits originaux ou une impression d'exclusivité. Et hop, le tour est joué. Le concept est porteur. On peut le décliner pour tout. Et en jouant avec la saisonnalité, les produits que l'on propose, le concept de son activité, les possibilités sont en fait assez vastes.
Et donc le premier secteur finalement à s'être engouffré dans la brèche, c'est la beauté, c'est ça ?
Oui, effectivement, c'est la beauté. On voit apparaître des box beauté quasiment chaque mois de nouvelles. Elles fonctionnent toutes plus ou moins sur le même principe, tester ou recevoir des produits de beauté. Chaque mois, on reçoit 4 ou 5 produits surprises, normalement en format de voyage, mais il existe quelques polémiques. Qu'est-ce que le format de voyage ? Qu'est-ce que l'échantillon ? Bref, je vous passe les détails, mais l'idée, c'est qu'on essaie des produits ou des marques qu'on n'aurait pas forcément essayé.
Et donc toi, tu en as testé certaines ?
Oui, j'en ai testé certaines, mais je vous ai préparé une petite liste un peu sympa pour qu'on découvre un peu ce que ça recouvre. Voilà, ce à quoi on s'attend. Mmh. Donc par exemple, on pourrait commencer avec My Little Box, qui est pour moi en fait la plus girly. Donc elle est liée au site internet My Little Paris, mais en fait il existe aussi Lyon, Marseille, le mariage, les enfants.
Mais pas Mende.
Et pas Mende encore, mais voilà.
Ça peut peut-être donner des
idées. Pourquoi pas.
Pour l'office de commerce.
En fait, elle remplit pas mal d'attentes chez ses utilisatrices. Chaque mois, en fait, là, c'est des produits mystérieux qui sont choisis par les rédactrices du site, des nicheuses de bons plans de ce site internet. Alors, pour info, je vous donne quand même le prix, 12,50€ par mois.
Oui, parce que ce que tu ne nous as peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que, en fait, c'est des systèmes où on s'abonne finalement.
Oui, alors il existe plusieurs systèmes. Il y en a où on peut faire en one shot, c'est-à-dire qu'on voit la box qui nous plaît avec son contenu sur certains sites et on l'achète. D'autres, on fait confiance, on s'abonne pour 3, 6 mois, 1 an en fonction de ce qu'on veut faire. Sachant quand même que.
C'est vrai qu'après, ça fait un peu beaucoup quand même, 1 an.
Et
je
ouais.
trouve que c'est.
Voilà. Et que le.
Parce que peut-être qu'on
prix, ça change pas grand-chose en plus. C'est pas. Oui. On gagne quoi 2-3 oui. euros par box si on s'engage sur 1 an. C'est pas. Mmh. Pas forcément.
Oui, puis comme tu dis, c'est vrai qu'au début, on est super contente. Voilà. Parce que moi, je sais, j'en ai une aussi. C'est vrai qu'au début, on est super contente d'avoir sa box. Mais peut-être qu'au bout de 6 mois, 8 ouais. mois, 10 mois, bon.
Sans compter qu'à mon avis, pour les box beauté, il faut une nouvelle étagère dans la salle de bain.
Oui, c'est
parce
ça.
Parce qu'on finit par avoir pas mal de produits. Alors, je vous parle d'une autre, la Glossy Box, qui est la plus beauté, avec vraiment la box pour les filles coquettes ou celles qui veulent devenir, remplie des dernières nouveautés beauté pour être au top du top de l'hydratation. Enfin, l'hydratation, c'est un exemple, hein. Vous ne serez pas surhydraté tous les mois, parfois thématique. Et là, effectivement, il faut prévoir une étagère de plus parce qu'il y a quand même pas mal. Elle n'est pas très chère, 10 euros par mois. Mais il faut ajouter les frais de port quand même.
Les frais de port, oui. C'est quoi? C'est 2-3 euros
général, c'est de cet ordre-là.
Oui, alors pour moi, peut-être.
Alors justement, la plus virile, on va dire, la Dandy Box, c'est le vanity parfait pour l'homme métrosexuel qui aime prendre soin de lui. Pléonasme, bien sûr. Donc, des produits pour eux, les hommes, donc pour toi, Guillaume, qui n'achèterait pas forcément tout seul, mais bon, c'est le principe comme pour les filles. Hein, et chaque mois, des petits cadeaux assez sympas. Bon, un peu plus cher pour les hommes, hein, tu, ouais, tu vois, 24,90€ par mois, mais les frais de port sont offerts.
Alors, tentez, Guillaume.
24,90€, ça fait quand même...
Après, tu te fais un petit cadeau.
Voilà, une petite crème anti-rides.
Mais tu n'en as pas. Hein.
En cisterne, peut-être, voilà. Ça pourrait être pas mal en ce moment. Pas.
Alors, pour Anne-Marie, parce que toi, je sais que tu es bien hype, la Jolie Box, peut-être. Ah,
je ne connais pas.
Des produits de beauté, d'excellentes marques, parce que vous n'en aviez pas encore assez, des conseils beauté, et le joli mag, le petit mag qui va avec, pour tout savoir sur la dernière crème qui rend belle, gentille et toujours à l'heure.
Et qui rend intelligente.
Ah bah écoute, on peut pas tout faire. Hein. 10 euros par mois, hein, c'est donné. Alors, à nouveau...
Une version pour moi.
Voilà, le joli monsieur, la version hype pour homme. Joli monsieur. Alors, parce que monsieur a lui aussi droit à sa box pleine de produits de beauté. Mais monsieur ne se laisse pas aller. Il devra penser à utiliser les produits parce que sinon, ça ne sert à rien.
Oui, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est valable aussi pour madame. Hein.
Tout à fait.
Et ça coûte aussi 10 euros par mois.
Oui. Pareil, le même prix.
Bah là, c'est déjà plus...
C'est plus abordable.
Plus abordable.
Je crois qu'il y a aussi la Manly Box par Glossy Box.
Oui.
Par contre, celle-ci, elle est trimestrielle. Autant, là, tu nous as parlé à chaque fois, ce sont des box mensuelles. Ouais. Effectivement, là, le petit moins, c'est que donc, la Manly Box, c'est trimestriel. Et je crois que c'est 17 euros, voilà.
Bon, ça reste... C'est peut-être pas si mal, finalement, ouais, dans le rythme.
Oui et non, parce que du coup, après, tu l'oublies. Tu oublies que t'as la box. Enfin, moi, je sais mon compagnon là, c'est pour ça que je pouvais en parler. Et c'est vrai que, bah, du coup, en 3 mois, t'as le temps d'oublier que t'as une box. Alors, c'est super quand tu la reçois parce que tu t'y attends pas, du coup. Donc, c'est vrai que t'as
l'effet pochette côté... surprise, je vois plein.
Exact. Mais c'est vrai que c'est long, malgré tout.
Bien, alors on a vu quelques exemples, mais au final, qu'est-ce que t'en penses ?
Eh ben moi, j'ai bien aimé découvrir des marques que je ne connaissais pas. Mais il y a aussi effectivement un certain nombre de critiques qui reviennent sur les sites ou les blogs que j'ai consultés, notamment sur ces box beauté. En termes de contenu, en fait, il y a des versions très différentes. Parfois, sur une même box, on peut avoir 20 versions différentes. C'est-à-dire que sur l'ensemble du panel des consommatrices, elles vont pas...
Ou des consommateurs,
elles ne vont pas avoir le même. Donc, imaginez, j'en reçois une et Anne-Marie ne reçoit pas la même. Je vais dire, mais toi, tu as ce produit super bien. Moi, j'ai celui-là qui est nul. Et donc, il y a un peu c'est ce côté un peu jalousie. Les produits que les unes ont n'ont pas la même chose. Et du coup, côté valeur, c'est la même chose. Parce que si vous recevez 3 échantillons... et que les autres ont le format king size, la grande bouteille, bah on se dit bah mince, c'est pas très juste, et ça peut être le petit défaut.
Mais alors pourquoi ça fait ça finalement?
Et bien parce qu'en fait le principe même, c'est pas forcément d'avoir des stocks, c'est d'avoir un peu ce que les marques vont donner. Ça, c'est la première raison. Donc, c'est-à-dire que en fonction du nombre de produits qu'on a reçus de telle marque. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que de plus en plus, on va essayer de segmenter, c'est-à-dire que on va profiler un peu les clientes pour essayer de leur envoyer ce qu'elles souhaitent. Enfin, ce qu'on pense qu'elle souhaite. Et du coup, on va avoir.
Oui,
un
c'est
peu
plus crème ou plus pour, voilà, les cheveux. Non, c'est ça,
oui,
maquillage.
C'est ça. Celles, enfin, qui veulent plus de maquillage, plus de crème, plus d'accessoires, vont pas demander la même chose dans leur box et donc vont pas recevoir non plus la même chose. Mais parfois.
Il y a aussi la taille parfois qui varie. C'est vrai que parfois on a, comme tu disais, des tailles. Je parle de produits. Non mais c'est vrai, parfois
la taille varie donc.
Ouh là là, on est mal barré là.
Ouais, je sens que ça va être dur aujourd'hui.
Donc ça peut être soit un échantillon,
oui,
soit effectivement un format de voyage.
Donc, c'est vrai que parfois on est un petit peu déçu quand il y a un échantillon. On a bien mais vous avez l'esprit mal placé. Oh là 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 là.
Bah, en même temps, il fallait pas nous mettre un...
tous les magazines.
Voilà.
Ça t'inspire ?
Ah ben non, mais enfin voilà, voilà. Ça met dans cette tonalité malgré tout. Bon alors, mais est-ce que ça marche ces
et
box ?
Oui, effectivement, les abonnés, alors pour les box beauté, surtout des filles, donc ont en général une moyenne d'âge de 31 ans. Et souvent, à la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le petit coup de cœur du petit produit se transforme vraiment en achat et en habitude ? Eh bien, en fait, d'après ce que disent les sites marchands, effectivement, le taux de transformation d'achat serait de l'ordre entre 10 et 30% selon les segments, soit au maquillage, ce qui est plutôt concluant et plutôt plutôt un bon pourcentage par rapport aux échantillons.
Pardon. Toi, tu en fais partie. Donc, toi, tu as des box, tu reçois des box. Est-ce que ça t'a donné envie d'acheter ensuite des produits ?
Alors, je reconnais que pour le maquillage et pour la box beauté, non, j'ai pas eu de coup de cœur. Par contre, j'ai aussi testé d'autres box dont je vous parlerai tout à l'heure, notamment la T-Box. Et là, franchement, j'ai fait des découvertes sympas. Et peut-être que... pourquoi pas ?
C'est vrai que, enfin, surtout les femmes peut-être, mais on reste fidèle quand même à certaines marques. Rien que la crème, moi, je sais que j'aime pas trop en changer. Alors c'est vrai que c'est sympa parce que du coup on découvre de nouveaux produits, des produits qu'on n'aurait pas achetés sinon. Mais de là après à en acheter par la suite, moi en tout cas ça m'a pas donné cette envie.
Tu vois, une sur quatre à peu près.
Mais ça m'étonne pas.
Dans les produits qu'on a testés sur une box qu'on avait en commun justement, il y avait des trucs quand même qu'on avait bien aimé, quoi, le truc pour les cheveux.
Oui,
là,
tout à fait. Les cheveux effets mouillés. Voilà. C'était sympa. Bon, j'ai l'impression d'avoir les cheveux gras après, mais c'est sympa, mais voilà.
Mais ouais, voilà.
Pas
plus.
Mais ça donne pas envie forcément de l'avoir pour toujours.
Non.
Bon, on va pas rentrer non plus trop dans vos expériences de
vie. Ah, mais attends, on a bien préparé.
Tu veux qu'on s'en aille, c'est ça ?
On a bien préparé cette émission.
Ah oui, non,
hein, on a bien
bossé.
Ça,
y a pas de souci. Il y a pas de souci. mais alors,
on t'embête.
Non, c'est pas ça. Mais il y a pas que la beauté, donc il faut quand même qu'on ait le temps de.
Justement, je sens que ton intérêt va remonter quand je vais parler justement des food box ou des wine box, donc les box vin. Ou alimentation, qui sont le dernier phénomène à la mode. La France a été précurseur, aujourd'hui suivie par d'autres pays. Donc, une des premières, c'était Gastronomies, ensuite Eat Your Box, qui sont les deux leaders, on va dire. Il en existe une trentaine quand même, hein, donc c'est assez important. Et la plupart ne comptent que quelques centaines d'abonnés, mais bon, pourquoi pas, ça peut prendre. Donc, Nicolas Martin, qui est le cofondateur de Chocofolies, il dit que justement l'aspect découverte et partage des box met de bonne humeur après une journée de boulot. Et du coup, voilà, c'est le petit plaisir un peu ludique.
Ouais, c'est le petit cadeau quand on rentre à la maison.
Voilà, pour soi.
Tu nous en dis un peu plus alors sur ces box.
Chocofolies, c'est la plus gourmande celle-là. Recevoir chaque mois sa dose de chocolat et de produits à base de cacao dans sa boîte aux lettres.
Admirez quand même le lien que fait Aurélie avec sa chronique d'il y a 15 jours.
Ah, oui, c'est vrai. Le chocolat, c'est... En fait, non, c'est que...
Non, mais c'est surtout qu'on a pensé à toi, puisque tu nous as dit que tu n'avais pas eu de...
Voilà.
Donc, pas eu de chocolat pour Pâques.
Tu peux t'abonner, donc.
Voilà. Comme ça, t'es sûr d'avoir des chocolats tous les mois.
Donc, dans sa boîte aux lettres, c'est ce que propose donc cette start-up Chocofolies pour séduire les plus accros. Des barres pralinées, des tablettes de chocolat au curcuma, aux fleurs, des mini-moules pour faire soi-même, des sprays chocolatés.
Je croyais que c'était...
Du chocolat au moule.
Oui, c'est ça.
Du chocolat au moule, non, c'est moins bon. C'est moins bon. Alors, entre 19 et 39 euros par mois. Donc, un cadeau qu'on s'offre ou qu'on offre, ou qu'on garde.
C'est pas mal, c'est sympa tout ça.
Alors, on reste dans les box sucrées avec Candy Discovery, vous admirez le petit jeu de mots. Donc là, c'est la hantise du diabétique. Et pour 13 euros par mois et sans engagement, justement, voilà, en one shot, vous recevez un paquet mystère rempli de 4 ou 5 variétés de friandises autour d'un thème. De quoi rendre la vie plus acidulée. Bon, on devient
une version
un peu plus...
gastronomique, peut-être.
Voilà, un peu plus sérieuse avec le gastronomiste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment pour les gastronomes. Chaque mois, des produits choisis, livrés avec la recette du chef, de quoi convaincre les plus réticents. On change un peu des nouilles jambon. Et il existe une version pâtisserie. 14 euros par mois, plus ses frais de port.
Et là, t'as testé ou pas ?
Non, j'ai pas testé. J'ai testé la prochaine, la T-Box, c'est la plus chic. Du thé, du café, bon, surtout du thé, là, en l'occurrence, et des tisanes qui arrivent chez vous dans une super petite boîte très, très jolie, très, un peu girly, bon, clair, mais vraiment très sympa. Et donc, de quoi amener à découvrir qu'il n'y a pas que le Nescafé ou le Lipton dans la vie. 17,90€ par mois.
Et ensuite, peut-être une box pour Ludovic Terrol, le journaliste de 48FM.
Ah oui, spéciale dédicace pour Ludovic, la box la plus alcoolisée, la Vinéa Box. Pour 39,90€ par mois, vous recevrez chaque mois du vin sélectionné par un grand sommelier. Donc, c'est une sorte de savour club nouvelle génération. Il y a aussi Dionys.fr, où là, pour 13€, moins cher par mois, on vous envoie 4 échantillons de 10 centilitres. Et ensuite, on peut acheter ce qui nous a le plus plu sur leur site. Donc là, vous voyez qu'on a, déjà une petite différence. On a vraiment, sur le site, on va trouver le moyen d'acheter son vin et de faire... on peut communiquer avec les autres. Il y a des notations sur le vin. Voilà, on goûte et ensuite, on peut commander.
Enfin, c'est incroyable quand même. Il y a un choix très diversifié.
Oui, effectivement, c'est un engouement qui est assez important, au point que il y a un jeune homme, Quentin Caillot, qui a eu l'idée de créer le site toutesleboxes.fr. Donc là, c'est assez marrant. On se rend compte vraiment que qu'il existe toutes sortes de choses. 170 box qui sont testées et classées. Et même le 9 et 10 juin prochain, la cartonnerie, le Box Market, donc le premier salon dédié aux box. C'est quand même incroyable. Donc on rematérialise ce qu'on avait dématérialisé.
Et donc, cette idée d'abonnement, est-ce que c'est finalement un peu l'avenir du e-commerce qui se joue avec cette nouvelle forme finalement de e-commerce ?
Eh bien, effectivement, c'est au-delà de l'attrait de la nouveauté, en fait, cet e-commerce par abonnement, c'est vraiment une arme à double détente pour les marques qui dépendent des réseaux et sont en recherche de croissance. En effet, le principe de l'abonnement permet d'amener un chiffre d'affaires récurrent, une stabilité dans le compte d'exploitation. Et ensuite, il va donner l'avantage de se rapprocher du consommateur qui souvent n'est pas forcément très bien connu de ses marques. Pour le consommateur, cette formule d'abonnement, elle, est une opportunité de recevoir chaque mois des offres produits de ses marques favorites et à un prix qui est quand même attractif. Les pionniers du e-commerce, en fait, ont très vite introduit un concept, donc ils sont anglo-saxons, donc je vous la fais en anglais, le personal shopper, c'est-à-dire qu'on va personnaliser les sélections de produits selon les goûts, les attentes ou le comportement de l'abonné. Si on le voit venir et ben, s'acheter tel ou tel produit sur le site, on va savoir qu'il faut appuyer à cet endroit-là. Donc c'est une approche commerciale qui est, vous voyez, assez agressive, assez offensive et qui contribue quand même à la satisfaction de l'acheteur, à sa connaissance et s'accompagne d'une démarche proactive de connaissance client pendant toute la durée de l'abonnement.
Alors peut-être pour terminer cette chronique, qu'est-ce qui t'a le plus étonné parmi toutes ces boxes ?
Alors évidemment, il y a celle qui m'a beaucoup plu, c'était la Woof Box, la box qui a du chien. Si vous avez peur que votre chien soit jaloux de toutes vos super box, il a désormais la sienne. Des jouets qui queen, des croquettes, du shampoing à foison, tout ça pour Médor et pour 17,90€ par mois. On notera en plus que le site dit sélectionner, vous voyez qu'on a du personal shopper de chiens, donc on sélectionne le produit en fonction de l'âge, de la taille, de la race du chien ou du chat, soyez rassurés, il y a aussi la Miaou Box.
Et Aurélie, on sait que tu as une chienne qui s'appelle, oui, Crispy, est-ce que tu vas l'abonner à cette Woof Box ?
Non, elle est déjà pourrie gâtée, elle n'a pas besoin d'avoir sa box.
Moi, je trouve quand même que tu n'es pas très généreux, tu t'en tapes, je sais pas, 3 ou 4 par mois et la chienne, rien du tout.
Mais après, c'est que ça fait un budget aussi. Hein. Savoir à qui on donne les priorités.
Et peut-être que je pourrais la tester une fois pour voir si effectivement c'est adapté. Enfin, c'est vraiment
tant
adapté.
Qu'à faire.
Alors, j'en ai une autre qui est un peu, qui moi m'a laissé un peu perplexe. Accrochez-vous, la Tora Box. La Tora Box, en fait, on vous propose chaque mois un livre donc traduit pour un public francophone. Donc ce mois-ci, par exemple, c'était le Priné ad Tora, un commentaire de 546 pages sur les 5 livres de la Tora.
Tout de suite, ça fait moins un.
Ça, il y avait déjà France Loisirs. Hein.
Voilà, c'est un petit peu le...
Pour la vente forcée de livres, ils étaient là déjà avant.
Et ta préférée parmi toutes ces boxes, Aurélie ?
Alors, ma préférée des préférées... Attention, on reste dans le thème trop marrant, la box des petites culottes. Chaque mois, on reçoit une petite culotte surprise. Mais attention, hein, une jolie culotte, pas une simple culotte du jour avec le jour de la semaine écrit dessus. C'est que la box communique sur l'idée de offrir ou à s'offrir. En gros, le chéri peut vous inscrire en 12 pour vous faire une surprise tous les mois.
Alors là, il ne faut pas qu'il se trompe de taille.
Non, c'est vrai, parce que sinon on va mal le vivre. Alors, le concept s'y prête plutôt bien, effectivement. Il y a quand même deux choix possibles. La culotte de créateur, plus chère. Effectivement, quand on voit les photos sur le site, il y a des froufrous, tout ça. Et, ou alors la culotte tanga au choix. Bon, bah là, voilà, en fonction des préférences personnelles. Pardon.
Mais il n'y en a qu'une ?
Il n'y en a qu'une culotte box ?
Oui, non ?
Ah oui, il n'y a qu'une culotte par mois, oui.
Alors, tu reçois un colis avec une seule culotte ?
Voilà.
Ah bah dis-nous.
Oui. Ça vaut combien ?
Oui. Ça vaut assez cher, je crois que c'est 60 euros.
Oh, la culotte ? Non.
Les trois mois, peut-être.
La enfin, culotte, ça fait quand même cher la culotte. Hein.
Trois culottes, quoi, du coup. Une pour trois mois.
Bon, avançons.
Et alors, l'autre qui m'a aussi beaucoup plu quand même dans le même registre, la gambette box qui va réchauffer votre printemps. C'est pas merveilleux ça comme argument de com. Tous les mois, un collant noir, bon là, bof, et une pochette surprise. Le super concept que la gambette box diffuse, en fait, c'est l'idée que dans votre boîte aux lettres, vous avez un collant noir et un collant fantasy adapté à la saison. Voilà. Ouais.
Bon, ben.
Pourquoi pas ?
Ouais, hein ? Pourquoi pas ? Comme en tous les cas, c'est vrai que ça donne envie de peut-être en tester quelques-unes.
Puis c'est surtout, ouais, des cadeaux sympas. Enfin, peut-être pas pour la culotte.
Je ne testerai pas, effectivement, ni, jolie ni gambette. La box, petite culotte, ni la, ouais. La box.
Jolie
la,
gambette
la,
box.
La gambette box. Mais...
Ah, je vous avais dit qu'on pouvait faire tous les produits possibles et imaginables. Là, je dois dire que c'était pas mal.
Ouais, bon, ben, c'est non, intéressant tout ça. Alors peut-être pour finir, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter dans ce thème des box ?
Eh oui, alors un double clin d'œil pour mon choix musical aujourd'hui, parce que lorsque je cherchais une chanson box, je me disais, mon Dieu, il faut que je trouve un petit clin d'œil. Et une rockeuse de mon entourage à qui je vais pouvoir dédier cette chanson m'a suggéré Portishead Shade et la bien nommée Glory Box.
C'est parti. tu,
elle
et lui.
Et nous revoilà sur 48FM, donc pour ce 7e numéro d'Actuel et lui. Et on va donner la parole à Guillaume qui va nous parler des jours fériés de ce mois de mai.
Et oui, en effet, plein de jours fériés dans cette période. Le 1er mai, c'était hier. Le 8 mai, donc c'est la semaine prochaine. De même que le 9 avec l'Ascension hein, et puis la fête de l'Europe, mais qui n'est pas un jour férié. Mais
ah oui, comme ça tombe,
oh, ça devrait.
Comme ça tombe le 9, ben oui, mais il avait été question notamment de rendre cette journée aussi fériée. Donc c'est pour ça que et de plutôt laisser tomber le 8 au profit du 9. Mais a priori, on est encore au 8. Et puis bon, on parlera aussi de la Pentecôte. Ce sera à la fin du mois. Donc, on parlera et notamment pourquoi ce lundi de Pentecôte férié.
Bon, on va faire ça de façon chronologique peut-être. Tu nous parles un petit peu du 1er mai. Pourquoi fête-t-on cette journée ?
Alors, le 1er mai, c'est la journée mondiale de l'asthme, mais c'est aussi la fête de Beltane, qui dans la tradition celtique, en fait, est l'opposé d'Halloween, c'est-à-dire c'est le jour où on passe de la saison sombre à la saison claire.
Et donc là, on ne se déguise pas ?
Et non. Mais c'est surtout le jour de la fête du travail dans de très nombreux pays.
Mais c'est quoi cette fête du travail ? Ça correspond à quoi ?
Parce que justement, en plus, on bosse pas. Donc.
Et oui, voilà, oui, c'est la fête du travail. Un jour, on ne travaille pas. Mais en fait, cette fête du travail, c'est le nom de plusieurs fêtes qui ont été instituées à partir du XVIIIe siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. Et de nos jours, elle se confond dans de nombreux pays avec la Journée internationale des travailleurs. Fête internationale instaurée à l'origine comme une journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail et qui est devenue rapidement une journée de célébration des combats des travailleurs. Elle est donc célébrée dans de nombreux pays du monde le 1er mai et c'est l'occasion d'importantes manifestations du mouvement ouvrier avec les syndicats.
Et toi, tu as manifesté hier ?
Non, je n'ai pas manifesté hier. J'ai travaillé.
Ah ! Bon, le jour de la fête du travail.
Et depuis quand fête-t-on cette journée, justement ?
Alors, on fête le travail à partir de 1793 en France, avec le calendrier républicain de Fabre d'Églantine, qui proposait une fête du travail au troisième jour des sans-culottides. Et cette fête a été aussi proposée au premier pluviaux, c'est-à-dire le 20 janvier, par Saint-Just, et fut célébrée pendant quelques années à cette date.
Ouais, il a bien fait, parce qu'il n'aurait pas fait beau le 20 janvier. Peut-être un mois de mai plutôt.
Ouais, pour les manifs, c'est mieux. En 1867, au Familistère Gaudin de Guise, naît une fête du travail qui est fixée cette fois-ci au 5 juin. Et puis, là où on va vraiment aussi, où ça va prendre de l'importance, et là où il va y avoir la première manifestation, c'est à New York, avec la première manifestation des syndicalistes, enfin des ouvriers new-yorkais, qui vont rassembler 10 000 ouvriers en septembre 1882. 5 septembre 1882. Et puis bah après, donc ça, c'est, on va dire, les premières célébrations du travail, mais qui n'étaient pas fixées au 1er mai. Et donc la fête internationale telle qu'elle est célébrée de nos jours tire son origine des combats du mouvement ouvrier qui était pour obtenir la journée de 8 heures. Et là, c'était à la fin du 19e siècle. Donc aux États-Unis, ça commence aux États-Unis lors du congrès des syndicalistes américains en 1884. Ils se mobilisent pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Et ils choisissent de débuter leur action le 1er mai parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable et donc les contrats se renouvellent à ce moment-là. Et donc la grève générale du 1er mai 1886 est largement suivie puisqu'ils sont quand même 340 000 dans tout le pays. Et 3 ans plus tard, là par contre on passe en France, et c'est la deuxième internationale socialiste qui se réunit à Paris à l'occasion du centenaire de la Révolution française et de l'exposition universelle. Et sur une proposition de Raymond Lavigne, elle décide le 20 juillet 1889 de faire chaque 1er mai une journée de manifestation avec pour objectif la réduction de la journée de travail à 8 heures, soit 48 heures hebdomadaires, puisque seul le dimanche était chômé. Le 1er mai 1890, là on avance un petit peu, l'événement est ainsi célébré dans la plupart des pays avec bon, des participations diverses. En 1891, il y a aussi une fête qui tourne mal dans le nord de la France et donc qui renforce encore cette inscription de cette date. En 1920, la Russie bolchevique décide que le 1er mai sera désormais chômé et deviendra la fête légale des travailleurs et son exemple est suivi dans beaucoup d'autres pays. Le 24 avril 1941, là, c'est le maréchal Pétain qui instaure officiellement le 1er mai comme la fête du travail et de la concorde sociale. Et donc, à l'initiative de René Belin, le jour devient férié, chômé et payé. Et c'est à ce moment-là que l'églantine rouge associée à la gauche est remplacée par le muguet. Et en 1947, le 1er mai devient dans le Code du travail un jour férié, chômé et payé pour tous les salariés sans condition. Et ce n'est par contre que le 29 avril 1948 qu'est officialisée la dénomination Fête du travail pour le 1er mai.
Alors merci pour cette page historique. Peux-tu nous dire pourquoi on offre du muguet le 1er mai ?
Alors, au début du XXe siècle, il devient habituel, à l'occasion du 1er mai, d'offrir un brin de muguet, symbole du printemps, en Île-de-France et bien sûr dans l'ensemble de la France. C'est une coutume de la cour lancée ou adoptée le 1er mai 1561 par la régente Catherine de Médicis. Dans l'attente de son prochain sacre, le jeune roi Charles IX, âgé de 10 ans, offrit un brin de muguet aux dames présentes. Voilà, et aujourd'hui, il existe une tolérance de l'administration fiscale qui permet aux particuliers, aux organisations de travailleurs, de vendre des brins de muguet sans formalité ni taxe.
Et donc, une semaine après ce 1er mai, on a le 8 mai. Et qu'est-ce qu'on fête ce jour-là ?
Alors, on fête le 8 mai 1429, Jeanne d'Arc qui oblige les Anglais à lever le siège d'Orléans. En 1886, c'était l'invention du Coca-Cola.
On le fête,
mais,
ça ?
Mais non, on ne fête pas ça. Ce qu'on fête, c'est bien le 8 mai...
On va boire toute la journée du Coca.
Le 8 mai 1945 et la capitulation de l'Allemagne. Voilà, c'est donc la capitulation du Troisième Reich qui met fin donc à la Seconde Guerre mondiale. Et les actes de capitulation sont constitués par deux versions de l'acte de reddition militaire. Et c'est cet ensemble qui définit la capitulation du Troisième Reich, par lequel les commandements suprêmes des forces armées allemandes se rendent sans condition et simultanément au commandement suprême des forces expéditionnaires alliées en Europe et de l'Union soviétique. Donc la première capitulation est signée à Reims à 2h41 le 7 mai 1945. La seconde à Berlin à 23h01 le 8 mai 1945 à l'heure de Berlin. Soit à 1h01 le 9 mai 1945 à l'heure de Moscou. Ce qui explique que l'événement soit commémoré en Russie le 9 mai. Donc voilà, vous voyez, il y a toujours ces questions de changement de date.
De temporalité.
De temporalité, on a un peu de problème.
Enfin, nous, non.
C'est surtout Aurélie.
Pourquoi vous voulez me parler de sushis ? C'est ça.
Bon, alors, on peut se poser la question, pourquoi deux capitulations ? Eh bien, en fait, parce que la première qui a eu lieu à Reims, le seul représentant de l'Union soviétique à Reims, c'était le général Ivan Souloparov, qui était commandant de la mission de liaison militaire. Et l'étendue de ses pouvoirs n'était pas vraiment claire et ne disposait d'aucun moyen de contacter rapidement le Kremlin. Et donc, il a pris le risque de signer pour la partie soviétique et en faisant noter toutefois que ce document pourrait être remplacé par une nouvelle version. Et Staline fut très mécontent de la tournure de l'événement et il exigea donc que la capitulation allemande ne puisse être acceptée qu'en présence d'un représentant du haut commandement des forces de l'URSS. Et donc, il insista pour que le protocole de Reims ne soit considéré que comme un préliminaire à la cérémonie officielle qui se tiendrait à Berlin en présence du maréchal Joukov. Et donc, le 8 mai, peu avant minuit, la seconde capitulation, je vais y arriver, allemande, est signée dans la banlieue de Berlin à Karl Horst.
Donc, le 8 mai, on fait la grasse mat et on fait aussi la grasse mat le lendemain.
Et oui, alors le 9 mai, il est férié aussi, et on fête deux choses cette année. Le 9 mai, la fête de l'Europe, mais on y reviendra, mais aussi la fête religieuse de l'Ascension, et c'est pour ça que le jour est férié de façon régulière. Mais c'est pas, ça change de date, effectivement, puisque l'Ascension, on va le dire, est une fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques, en comptant le dimanche de Pâques. Mais comme la date de Pâques est changeante dans le calendrier, puisqu'elle est calculée en fonction d'un certain nombre de paramètres, la fête de l'Ascension se décale, mais reste toujours un jeudi, puisqu'il y a toujours ces 40 jours qui sont de décalage, donc finalement depuis le dimanche de Pâques. Dans la tradition de la foi chrétienne, c'est l'élévation au ciel de Jésus après sa résurrection et la fin de sa présence terrestre. Alors, on retrouve les récits de tout ça dans le Nouveau Testament. Et l'ascension, c'est un thème que l'on trouve aussi dans la mythologie gréco-romaine avec Hercule, Romulus. Et l'idée, c'est de monter aux cieux, c'est symboliquement rejoindre le domaine divin. Alors après, les sources essentielles du récit de l'ascension de Jésus se trouvent dans deux textes écrits par le même auteur, Luc, donc l'Évangile selon saint Luc, et les Actes des Apôtres. Voilà, et c'est le seul des évangélistes à raconter cet épisode, qui constitue la fin du premier ouvrage et qui inaugure le second.
Et en fait, le jeudi de l'Ascension, c'est aussi un jour férié dans de nombreux pays. Hein, c'est ça, c'est pas qu'en France.
Oui, en Europe, dans beaucoup de pays, hein, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Islande, au Liechtenstein, au Luxembourg, dans la principauté de Monaco, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse. Voilà, mais après aussi en Afrique, au Burundi, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, Madagascar, en Namibie, au Sénégal, en Amérique, en Colombie et en Haïti, et en Asie et Océanie, en Indonésie et à Vanuatu.
Tu nous disais donc qu'on fête le 9 mai, la fête de l'Europe ?
Oui, c'est aussi la journée de l'Europe, effectivement, une célébration de l'Europe tenue annuellement le 5 ou le 9 mai, sachant que le 5, c'est la date plutôt du Conseil de l'Europe, et de l'Union européenne. Mais finalement, c'est le 9 qui s'impose de plus en plus comme cette fête-là, puisque en fait, il est fait écho à un acte fondateur de cette construction européenne, qui est le 9 mai 1950. C'est le jour de la déclaration Schuman, qui proposait d'unir les industries du charbon et de l'acier françaises et allemandes. Et donc, c'est considéré vraiment comme le moment fondateur de ce qu'est maintenant l'Union européenne. Le Conseil européen de Milan, en 1985, a déterminé cette date comme jour du drapeau. Voilà. Alors, la célébration du 9 mai, ce n'est pas seulement l'anniversaire de cet acte fondateur, mais c'est aussi un moment pour remettre un petit peu en avant cette réalité européenne, ces valeurs qui se sont construites, un certain nombre de principes d'état de droit, de système démocratique, avec une souveraineté populaire, sur des valeurs qui sont maintenant plus discutées, mais partagées par la plus grande majorité des peuples européens. Et donc justement, le sens de cette fête, c'est bien de ne pas oublier ce parcours accompli, de ne pas oublier ces valeurs, et finalement cette paix aussi qui a été construite à l'échelle du continent. Et voilà, cette fête aussi, c'est une occasion de faire parler un petit peu de l'Europe, de la rapprocher des citoyens. Et c'est aussi un moment où on doit valoriser les symboles de l'Union. Et donc, je vous proposerai tout à l'heure une petite valorisation d'un des symboles qui
est l'hymne. On attend ça avec impatience. Mais en fait, donc, c'est une journée qui est importante, mais ce n'est pas pour autant un jour férié. Enfin, férié grâce donc, à l'Ascension, mais pas...
Voilà, mais c'était l'occasion d'en parler un petit peu aussi, parce que c'est vrai que c'est une construction aussi historique qui est importante pour notre vie quotidienne.
Là, cette année, tu sais ce qui va se faire ou...
En Lozère, pas forcément beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'actions. En plus, on est dans l'année de l'Europe des citoyens. Donc, voilà. Bon, après, c'est aussi l'occasion. Enfin, ça permettra justement cette année des citoyens, peut-être d'avoir d'autres actions plutôt à la rentrée.
Et puis, justement, on prône la laïcité. Peut-être que transformer. Le jeudi catholique en 9 mai...
Mais enfin, si tu dis ça, il n'y a plus de 25 décembre.
Mais voilà.
Il n'y a plus de 15 août.
Mais c'est, la plus grosse question, c'était plutôt la transformation du 8, qui finalement était un acte, un combat interne finalement, justement, à ce nouvel espace européen, qui est plutôt la célébration d'une victoire. Et plutôt d'aller vers cette évolution sur le 9 qui est un jour plus de construction. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas abouti. Ça aurait pu plus aboutir si le traité constitutionnel européen avait validé cette date de façon institutionnelle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
D'accord. Et si on avance un petit peu plus dans le calendrier, une autre fête religieuse, la Pentecôte, arrive bientôt ?
Et oui, c'est le 19 mai prochain. La Pentecôte, c'est une fête chrétienne inspirée de la fête juive de la fête des semaines, et sa célébration est attestée depuis le 4e siècle. Elle prenait place au terme d'une période de 50 jours après Pâques, et elle commémore la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres et les personnes présentes avec eux, et elle est rapportée aussi dans les Actes des apôtres, dont on a parlé tout à l'heure. C'est le moment où finalement est lancée la diffusion de l'évangile, de l'histoire de Jésus, et c'est la création de la première église finalement. Donc, dans les traditions chrétiennes, la fête de la Pentecôte, c'est une occasion spécifique de célébrer le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité chrétienne.
Et pourquoi le lundi de Pentecôte est-il férié ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, jusqu'au Concile Vatican II, le lundi de Pentecôte était une fête d'obligation, au cours de laquelle l'Église catholique romaine s'adressait aux nouveaux baptisés et confirmés. Mais depuis cette date, le lundi de Pentecôte n'est plus solennisé, hormis dans les branches traditionnalistes de l'Église. Alors, le lundi de Pentecôte, il est actuellement un jour férié en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, dans certains cantons suisses, en Norvège, au Danemark, en Ukraine, en Roumanie, en Islande, à Madagascar, en Grèce, au Sénégal, au Bénin, au Togo. En Suède, il ne l'est plus depuis 2005, puisque le 6 juin, qui est la fête nationale suédoise, est devenu férié, et donc ça faisait trop proche. Mais il ne l'est pas dans des pays pourtant de tradition catholique, comme l'Italie, le Brésil, l'Irlande, l'Espagne, le Canada, le Portugal, la Pologne, le Cameroun, ni dans les pays de tradition orthodoxe comme la Russie.
C'est vrai que ça fait bizarre pour l'Espagne, qui est un pays quand même justement très, très catholique.
Alors, si on s'intéresse un peu à la France, avant la Révolution, c'était toute la semaine qui suivait Pentecôte.
Oh, moi, ça me va.
Oui, voilà.
Effectivement.
Il faut revenir aux fondamentaux, moi, voilà. Je dis. Et donc, tout le mois de mai férié.
C'est donc le Concordat de 1801 qui a réduit ce caractère férié au seul lundi de Pentecôte. Et alors, il y a eu beaucoup d'histoires aussi autour de ce lundi de Pentecôte, puisqu'il a été rendu donc férié d'après la loi du 8 mars 1886, et il est toujours resté sans particularité jusqu'en 2004. Mais entre 2004 et 2007, il y a eu la décision du gouvernement Raffarin d'en faire une journée de solidarité pour les personnes âgées. Il reste férié, mais devient non chômé pour beaucoup d'entreprises. Et puis, donc, il est revenu en 2008, un jour simplement férié. Il faut simplement travailler une journée, peu importe laquelle, à l'exception dans certaines branches, puisque l'État a besoin de s'organiser aussi pour verser cette contribution pour les personnes âgées. Et donc, c'est l'armée de terre, par exemple. Ce jour-là n'est plus férié pour l'armée de terre.
Bah écoute, merci Guillaume. Maintenant, on est devenu incollable grâce à toi sur les jours fériés du mois de mai.
On aimait déjà bien avant, mais là, maintenant...
Ça prend tout son sens. Voilà.
C'est ça. Bah oui, c'est ça qui c'était l'occasion de faire ce petit focus.
C'est parfait. Alors, tu nous proposes quoi comme intermède musical ? Et là, j'ai peur, mais bon.
Alors, je vous propose effectivement d'écouter l'Aude à la joie ou l'Hymne à la joie. C'est le quatrième mouvement de la 9e symphonie de Ludwig von Beethoven et qui correspond à l'hymne européen. Alors, comme il y a beaucoup de langues en Europe, ce n'est qu'une version instrumentale qui est l'hymne européen, et les paroles originales en allemand n'ont pas de statut officiel. Alors, je vous propose juste d'entendre tout d'abord la version instrumentale, et puis on écoutera quelques secondes de la version de Nana Mouskouri avec des paroles en français qui, justement, sont symboles de cette construction européenne.
Alors, juste, chers amis auditeurs, restez avec nous, ce n'est pas fini, ce n'est pas l'heure de la sieste.
Hein. Voilà. Un petit salut à Nana Mouskouri qui était aussi députée européenne. Thank you. Actu,
elle
et lui. Et voilà, c'est la troisième partie d'Actu.
Réveillez-vous.
On vous a pas imposé Nana Mouskouri en entier.
C'est trop aimable de ta part.
On l'a empêché en fait, vous le dites.
Bien, alors c'est la partie légère de cette émission. Mais tout est léger. Avec la presse magazine féminin et masculin.
Oui, alors c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas réalisé une petite revue de presse concernant les magazines féminins. Donc, ni une ni deux. La semaine dernière, j'ai acheté chez mon buraliste quelques numéros. Sensuel, Biba, Cosmo et Ubi. Et petite nouveauté pour cette fois-ci, je vous parlerai également d'un magazine pour hommes, Men's Health. Et vous allez voir que les sujets pour les deux sexes sont exactement les mêmes. Donc, pour vous, j'ai épluché les sujets phares de tous ces magazines du mois de mai, histoire aussi de vous donner quelques conseils pratiques.
Bon, Ezou, on commence avec un sujet tendance en ce moment, à quelques semaines de l'été.
Oui, alors, bon, en ce moment, on voit bien que le soleil joue cache-cache avec les nuages, mais vous le savez, cet été, on enlèvera sûrement pantalon, jupe, corsage et veste pour privilégier pareo, maillot de bain et short, enfin... pas forcément au boulot, hein, oui. Plutôt en mode vacances. Il y a deux semaines, j'avais d'ailleurs évoqué tous les sports à la mode qui se pratiquent dans l'eau, l'idéal pour combattre la cellulite et remodeler sa silhouette.
Oui, vous pouvez toujours écouter cette émission sur 48FM.org. On a eu quelques petits problèmes de podcast, mais c'est réparé.
Alors, mais pour toutes celles et tous ceux qui ne pratiquent pas ces sports et ne peuvent se vanter d'avoir le corps d'un top modèle, ne soyez plus complexés selon les magazines. Fini les unes prenant des régimes drastiques pour entrer dans une robe taille 36, vous faites du 44, du 46, et bien soyez-en fiers. Le magazine Bi nous apprend à aimer notre corps tel qu'il est. Je cite d'ailleurs un sociologue, David Le Breton. Ces dernières années, on a vu des obèses, afficher leur beauté. Preuve qu'il existe aujourd'hui plusieurs modèles féminins qui ne se stigmatisent pas entre eux. Alors, la marge de manœuvre des femmes est beaucoup plus grande puisqu'elles ne sont plus dans la tyrannie de la minceur. En clair, il faut assumer nos défauts, si défauts d'ailleurs il y a. Après tout, Kim Kardashian est connue grâce à ses fesses très rebondies. Bess Ditto, une chanteuse de poids, leader du groupe Gossip, a lancé sa ligne de vêtements XXL. Et super bonus quand même, Jean-Paul Gaultier va lui confectionner sa future robe de mariée. D'ailleurs, je cite le styliste français qui disait dernièrement « Ce sera du blanc ou du pastel, on verra, mais peut-être un peu traditionnel. On va suivre ses formes, elle est très inspirante. » Autre exemple, la sublime Beyoncé qui affiche fièrement son corps voluptueux sur scène. Donc, mesdames, mesdemoiselles, aimez-vous, aimez vos courbes, le diktat de la taille zéro n'est plus à la mode.
Alors, mais comment faire pour s'aimer dans ces cas-là pour
voilà.
Ces dames ?
Évidemment, ce n'est pas toujours facile, mais quand même quelques conseils. Déjà, il faut savoir oublier la balance, le poids est une source de stress. Pour lutter contre les capitons disgracieux sur les fesses ou sur les jambes, massez-vous matin et soir pour déloger la graisse. Privilégiez des crèmes minceurs à base de caféine. Alors d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse, si vous me le permettez, concernant le café. Dans le dernier magazine de Men's Health, alors je ne sais pas si toi tu le lis, Guillaume.
Non.
Moi, je vais m'y mettre là. Depuis que j'ai vu la couverture, je ne sais pas pourquoi tu nous parles de la parenthèse sur le café quand je vois la couverture. Je vais même m'intéresser au foot, je pense.
Et donc, dans ce dernier magazine, il y a une page bien-être qui est consacrée aux vertus et aux effets néfastes du café. Un article que j'ai trouvé super intéressant. Par exemple, saviez-vous, le café stimule, grâce à lui, vous êtes plus concentré au travail. Par ailleurs, il est bourré d'antioxydants, bien plus que dans le thé. Et il serait aussi antidiabétique. Alors, concernant les points négatifs, le café provoque le stress. Alors, on le savait, mais bon, donne des palpitations, prive de sommeil, peut rendre dépendant, donne mal au ventre aussi en augmentant les reflux gastro-œsophagiens et aggrave les maux de tête. Enfin bref, voilà, c'est vraiment à lire si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le café, donc dans le dernier numéro de Men's Health. Sinon, revenons à nos moutons. Donc je disais comment faire hein, pour s'aimer. Eh bien, il ne faut pas oublier non plus de pratiquer une activité physique régulière. qui fera du bien évidemment au corps et au moral. On peut aussi changer de tête, ça c'est tout bête, mais voilà, une nouvelle coupe de cheveux ou tout simplement un nouveau maquillage vous boostera. Et sachez que cet été, Aurélie, on met le paquet sur le regard aquatique. Donc du bleu, du bleu, du bleu et encore du bleu autour des yeux.
Je croyais que c'était une tête de poisson.
Je ne sais pas comment on doit le prendre, mais bon. Oui. Alors, on mise aussi sur des ongles bicolores. Donc ça, c'est encore plus pour Aurélie.
Tendance.
Hein. Guillaume, peut-être pas...
Tu oublies, oui, des ongles voilà. bicolores.
Et on n'oublie pas de façonner nos cils avec un mascara épais.
Donc, pourquoi du mascara épais?
Ben, on mise tout sur le mascara pour avoir effectivement un regard plus sensuel, sûrement.
Voilà. Donc, on ne court plus après la perfection, on va juste se faire plaisir?
C'est effectivement comme ça que résume Biba dans son spécial beauté intitulé joliment « La beauté par défaut ». Vous avez un gros nez, un petit front, des yeux globuleux. Bon, c'est pas de peau si vous avez tout ensemble.
Faut pas tout avoir.
Des sourcils épais, des oreilles décollées, des joues rondes, une mâchoire carrée. Bon, sachez qu'avec des petites astuces, vous n'aurez plus honte de ces imperfections.
Il va falloir combiner beaucoup d'astuces. Ça va faire un peu patchwork peut-être.
Non, mais encore une fois, t'es pas obligé d'avoir et des oreilles décollées, et des joues rondes, et des yeux globuleux, tu vois. Enfin, donc, comment régler ces petites imperfections? Pareil, avec du maquillage et une coupe de cheveux, peut-être que ça va vous permettre de mieux vous assumer. Alors, je vais vous prendre un exemple très concret. Si vous avez un gros nez, bon, alors, il faut le sublimer au lieu d'essayer de le cacher. Bon, c'est...
Aurélie rigole pas. Sublimer son gros nez.
Bon, je vais pas dire le mettre en avant, mettre en valeur, mais en tout cas, voilà.
C'est un cap, c'est une péninsule.
On peut faire quelque chose, tout simplement en le sublimant, soit en dégageant le front, soit en adoptant une frange longue et droite. On peut tricher également pour affiner le nez en utilisant un blush sculptant mat que l'on tapote sur les ailes et le bout du nez, les tempes et le bombé des pommettes. Et on met en lumière son arête ainsi que l'arcade sourcilière avec un fard blanc irisé. Voilà, pour vraiment... En tout cas, avoir l'impression que son nez est plus fin. Vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau et donc prête à séduire de nouveau votre compagnon, voire un parfait inconnu, cet été sur les plages.
Et comment on fait pour les yeux globuleux hein?
Mais pareil, en fait, c'est des techniques. Alors, je vous ai pas tout listé.
Tu vois le mascara de tout à l'heure.
Mais effectivement, après, c'est, je te dis, avec du maquillage. Bon, alors, c'est vrai, comme ça, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que là, c'est bien expliqué dans les magazines. Sinon, après, aller en institut de beauté, les esthéticiennes vous donneront aussi quelques astuces. Mais c'est vrai qu'avec du maquillage, aujourd'hui, on arrive à gommer un petit peu les défauts. Mais bon, après, c'est sûr que si t'as les yeux globuleux, ils seront toujours globuleux, hein.
Donc séduire son compagnon ou un parfait inconnu, ça tombe bien ça, parce que je crois que justement une des thématiques de la presse magazine en ce mois de mai, c'était le sexe.
Oui, alors c'est le printemps. Donc forcément, la nature revit. Et pour nous, eh bien, ça nous donne des envies de butiner. Non ? Pas pour vous ? Non ? Alors oui, c'est si, bien, si, parce si, que si, l'autre si, fois, si. Je suis sur le sport, ça fait un bide. Là, c'est sur le sexe, ça fait un bide. Bon, mais je serais sur le chocolat. Ouais, une fois, maintenant, ça a déjà été fait. Alors, le dernier numéro de Sensuel nous énumère les positions avec un seul et unique objectif, prendre 100% de plaisir.
Ah bah, tu vois, là, tu nous intéresses. Vas-y.
Ah,
là, on va, voilà.
Alors, si je vous dis la balançoire, ça vous dit quelque chose, non ?
Bah non, justement, on va attendre des explications.
Alors, la balançoire, l'éléphant possédé, le coquillage suggestif, le lotus sensuel, les pinces du plaisir sont les 5 positions retenues par le magazine Sensuel qui promettent de vivre de nouvelles sensations. Donc, avis aux amateurs.
Ça fait rêver avec ces appellations.
Bon, je ne vais pas vous les décrire, hein. Je vous laisse acheter Sensuel pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais c'est bien expliqué. Voilà.
Il y a des schémas.
Voilà. Sinon, vous pouvez aussi réveiller le désir de l'autre à travers 10 jeux coquins à réaliser au quotidien. Par exemple, envoyer des mails d'amour ou SMS enflammés à votre homme, bandez-lui les yeux pendant l'acte, bref, rallumez la flamme sans en faire trop. Cela vous permettra peut-être d'atteindre le 7e ciel. D'ailleurs, des lectrices du Cosmo dévoilent leur plus bel orgasme. Mais bon, là, pareil, je vous laisse le soin de les découvrir en lisant ce magazine.
Mais alors, l'orgasme, il paraît qu'on en parle aussi dans Biba.
Oui, t'es bien renseigné, je vois, Guillaume. Effectivement, un dossier révèle que l'orgasme, ça s'apprend. En 5 étapes, on nous enseigne que la jouissance se provoque à travers des gestes et des nouvelles habitudes à prendre. Il faut explorer son corps pour mieux cibler ses envies et ses besoins, mais également développer ses fantasmes sans oublier les préliminaires pour bien se mettre en condition. Donc en fait, c'est un petit peu du sport. Voilà, il faut le faire régulièrement. C'est une pratique régulière.
Bon, et c'est un sujet qui préoccupe aussi les hommes, visiblement.
Tout à fait. La presse masculine se pose aussi des questions sur la sexualité. Donc, le dernier numéro de Men's Health, hein, qui est sous les yeux d'Aurélie.
Dans mon sac à main,
elle l'a gardé.
Il est déjà dans mon sac à main. Au départ, il était à gauche de la table. Voilà, maintenant, il est à droite,
extrême
de son
droite,
côté.
Près de mon sac à main, prêt à partir.
Ouais. Alors, ce numéro donne 6 règles d'or pour assurer au lit. Alors là, ça va être surtout les messieurs. Hein. Prenez un stylo et une feuille. C'est pour vous. Ah, tape départ, Guillaume, c'est bon. Il faut d'abord vous détendre, surtout si c'est le premier rendez-vous. Ensuite, mettez en confiance votre ami pendant les préliminaires, puis laissez-la mener la danse. Enfin, n'oubliez pas de parler de cette expérience vécue juste après l'acte. D'ailleurs, Stanley Althoff, directeur général du Centre de consultation conjugale et sexuelle dans le sud de la Floride, nous explique, je le cite, qu'après l'orgasme, le corps libère de l'oxytocine. Le sentiment de proximité et de confiance est renforcé. On veut se toucher, s'enlacer, rester l'un contre l'autre. Donc, messieurs, allez-y. Au lieu de dormir, provoquez le dialogue en lui demandant sincèrement comment elle se sent. Cela vous permettra d'avoir peut-être un deuxième rendez-vous avec cette jolie dame. Alors là, évidemment, je vous en ai parlé en quelques mots. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, parce que j'aurais peur de choquer quelques auditeurs. Mais voilà, si
surtout
vous voulez...
Surtout qu'il est quand même 13h30. Bon, il peut avoir en pleine vacances scolaires, nous pouvons avoir
de jeunes auditeurs. Mais c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails, Guillaume. Et c'est pour ça aussi que si vous, chers amis auditeurs, vous voulez avoir plus de conseils et avoir plus d'informations sur ce sujet, eh bien donc achetez le dernier numéro de Men's Health. Bref, soyez bien dans votre corps, bien dans votre
comme Aurélie, mettez-le de côté.
Oui, empruntez-le à votre copine. Je vais lui faire payer, tu vas voir tous les mois. Bref, vivez l'instant, pensez à l'autre et vous passerez sûrement un été de folie sans complexe.
Bien, ben voilà, ça nous change un peu.
Bon, ça t'inspire quand même un petit peu là,
oui,
vers la fin.
Bah oui, hein. Non, mais bien sûr, non, c'est très inspirant. Non, j'ai eu une petite faiblesse tout à l'heure quand tu nous as posé la question. Oui.
Ouais. Et qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter sur ce thème ?
Alors justement, pour rester dans la thématique, dans cette thématique coquine, je vous propose d'écouter la chanson « Qui dit mieux » du groupe « La rue qui est à nous ».
Et ça nous changera de Nana Mouskouri.
Il était tout seul dessus, elle était toute seule en dessous. Il était sans par-dessus, et elle était sans dessous. Le lit était... sans dessus dessous. Elle n'était pas déçue. Il avait des sous. Elle était pas déçue, elle avait des sous. Elle avait deux amants,
elle avait deux amants.
Elle avait deux amants,
elle avait deux amants.
Elle avait deux amants,
elle avait deux amants.
Et moi,
deux paires de cornes.
Qui dit mieux? Ils étaient trois dessus, elle était toute seule en dessous. Ils étaient sans par-dessus, elle était sans dessous. Le lit était sans dessus dessous. Elle n'était pas déçue, ils avaient des sous. Elle avait trois amants,
elle avait trois amants.
Elle avait trois amants,
elle avait trois.
Elle n'était pas déçue, ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Elle avait quatre amants.
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 Et moi,
quatre paires de cordes.
Qui
Ouais, je m'étais mis en veille pendant la chanson, alors...
S'endormi. Bizarrement, pas devant Nana Mouskouri, mais la rue qui est à nous, là aussi ça fait un bide.
Ah là là, ma pauvre Anne-Marie.
Mon pauvre Guillaume.
Bon ben voilà, c'est la fin de cette émission.
Déjà ?
Ben oui, déjà.
On était rapide hein, cette fois-ci.
Ah ouais, une petite heure 5, tout va bien. Donc ben, bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission mardi à 18h11 sur 48FM. Vous pouvez également la réécouter sur internet, sur le site 48fm.org. Et puis voilà, on va se donner rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission qui, on ne sait pas encore de quoi elle parlera, mais...
Suspense.
À bientôt.
À bientôt, bonne journée.
Bonne journée, ciao, ciao.
Bonne journée sur 48FM.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu. Actu, elle et lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.